Bonsoir à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec le Brésil et la musique brésilienne et Araponga. Alors, ce soir, il sera question de poésie et aussi de musique, comme d'habitude, je dirais plutôt de la rencontre entre la poésie et la musique, sous la forme d'une lecture musicale que nous proposent nos deux invités de ce soir, Véronique Lem. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Et Odile Bertotto. Bonsoir Odile, je prononce bien ton nom?
Oui, c'est bien. Merci. C'est bien.
Alors, donc Véronique et plutôt Verioca, hein, parce qu'on la connaît comme ça ici. Je pense qu'à Lyon aussi.
Oui. elle commence à être bien connue partout, Verioca. Ouais.
Donc je reçois Véronique Lem, je reçois Odile Bertotto. Je crois qu'avant. Je vais vous présenter très rapidement hein, pour les auditeurs. Véronique est déjà très connue ici, mais je tiens à la présenter rapidement quand même. Donc, tu es musicienne, multi-instrumentiste, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Chanteuse.
Aussi.
Compositrice aussi.
Oui.
Aussi. Amoureuse de la musique brésilienne.
Ah non, pas du tout.
Et pas seulement de la musique brésilienne, mais je pense de la culture et du Brésil d'une manière générale,
oui,
non?
Oui, oui, oui.
Je suis sûre.
Oui. C'est surtout la musique, effectivement, quand même.
Odile Bertotto, donc, tu viens de Lyon.
Oui, c'est ça.
Tu es comédienne, chanteuse, soprano. C'est ça ?
Dans un ensemble vocal.
Dans un ensemble vocal qui a déjà eu comme répertoire des musiques polyphoniques brésiliennes et qui est dirigé par un Brésilien, c'est ça ?
C'est ça, qui s'appelle Eduardo Lopes.
Eduardo Lopes, qui vit à Lyon.
Il vit à Lyon, mais entre Lyon et Rio maintenant. Et maintenant, il est à Montélimar, je crois.
Ouais. Voilà. Et tu fais toujours partie de cet ensemble ?
Ça fait 10 ans. Maintenant que je fais partie de cet ensemble, et effectivement, on a un spectacle sur les musiques du Brésil, avec des musiques très différentes qui vont des musiques des Indiens en passant par de la musique afro-brésilienne et des choses plus contemporaines, jazz. Voilà. Mais on est 12 chanteurs quand on est le groupe complet, quelquefois 8. Voilà.
Et toujours là, dans le répertoire, il y a de la musique brésilienne.
On a un spectacle sur les musiques brésiliennes, mais on a fait d'autres spectacles, notamment avec Gondwana. Eduardo a fait un spectacle sur Poulenc. On a fait aussi la messe de Bernstein, voilà, qui est c'est Amérique, mais Amérique du Nord, quoi.
Oui, du Nord.
Voilà.
Et donc, vous êtes ensemble parce que vous nous proposez justement ce jour-ci à Montpellier un spectacle qui est une lecture musicale qui s'appelle « Au milieu du chemin, no meio do caminho », dont on va avoir l'occasion de parler ce soir. Et puis, vous allez aussi revenir sur Divergence pour nous parler parce que ça intéresse plein de gens, voilà. Et qui est donc une combinaison de poésie et de musique, et que vous allez jouer demain, vendredi et samedi, au théâtre Pierre Tabar.
Voilà. Rue Lacanal.
Rue Lacanal, les horaires ?
Vendredi, c'est à 20h45, et samedi 28, c'est à 19h.
D'accord. Alors, comment est venue cette idée de monter ce spectacle ?
C'est Odile qui parle.
C'est Odile
qui est à l'origine de tout.
C'est elle.
Eh bien, je sentais donc dans le groupe Gondwana, Et puis, un été, je me suis dit, parce que je m'intéresse à la poésie par ailleurs, et je me suis dit, tiens, mais je ne connais pas de poète brésilien, enfin, de poète écrit, quoi. Voilà. Mais tiens, c'est curieux. Alors, je suis allée à la bibliothèque, et puis j'ai été chercher des bouquins, et je suis tombée sur une anthologie qui s'appelle l'anthologie de la poésie brésilienne, voilà, des éditions Chandaigne, et j'ai trouvé des poèmes très beaux. Et puis j'ai gardé, voilà, j'en ai fait un petit paquet sur un bureau comme ça. Et puis après je les ai réunis, puis je me suis dit, mais vraiment, je pense qu'on pourrait les dire, les entendre, parce que en plus peu de monde connaissent la poésie brésilienne en France. Et donc j'en ai parlé avec Eduardo Lopez qui m'a dit ah, c'est intéressant ton idée et tout, et il me dit mais tu devrais mettre de la musique avec. Et je disais ben oui, je pourrais mettre peut-être Villa-Lobos, c'est bien ça. Et il me dit mais tu devrais mettre d'autres musiques aussi. Et puis il me dit, mais je lui dis mais j'aimerais faire ça avec un guitariste, mais quelqu'un qui pourrait à la fois jouer Villa-Lobos mais aussi des chansons, des choses voilà, plus populaires. Et il me dit mais je sais qui peut faire ça. Je dis mais qui? Eh ben Verioc. Donc voilà. Alors
non, c'est comme ça que vous vous êtes connus. Enfin, voilà. Vous ne les connaissiez pas avant.
Non, mais envoyé un mail et d'ailleurs j'ai pas répondu tout de suite parce que je regarde rarement, mais j'ai pas d'ordinateur chez moi.
Et j'ai attendu un mois. Et je me suis dit bon ça l'intéresse pas. C'est normal. Elle a plein de choses à faire.
J'avais reçu quelque chose. Un mail.
Et un mois plus tard, je l'ai rencontré, puis je suis allée dans son jardin et puis je lui ai lu des poèmes. Et puis
parce que moi, pour travailler avec moi, il faut d'abord passer par mon jardin.
D'abord. Par le portable, d'abord. Surtout pas par l'ordinateur. Et ensuite, par ton jardin.
Voilà.
D'accord. Donc, c'est comme ça que vous êtes connue. Et tu es venue là, à Montpellier pour la voir. Ouais. D'accord. Donc, au milieu du chemin, nommé de Camille, et est un petit texte que vous allez... pendant la soirée, vous allez nous dire, mais d'un poète brésilien qui est Carlos Drummond de Andrade. Et c'est vrai que Carlos Drummond de Andrade est un auteur qui est très connu au Brésil. Et donc, dans cette liste, il y a énormément de poètes. J'étais étonnée, il y a beaucoup de poètes connus. Et il y a des poètes qui sont moins connus. Il y a, par exemple, que moi, non plus, je ne connaissais pas. Comment vous avez fait la... Je ne sais pas si c'était plutôt toi ou si tu as demandé...
Pour les poèmes, c'est Odile qui a tout... Ouais.
Pour les auteurs déjà. Pour les auteurs, comment choisir, en fonction de quoi
C'est parti de l'anthologie, mais c'est plutôt un choix de...
De feeling.
Oui, de feeling, de cœur, quoi. Et puis en même temps, il me semblait qu'il y avait des gens incontournables. Comme Carlos Drummond de Andrade, comme Manuel Bandeira. Et puis, c'est aussi des poètes qui passent. Parce qu'il y a aussi des poèmes qui, j'imagine, dans la langue, passent bien. Et puis, en français, c'est peut-être difficile de les dire. Puis, ou alors, il y a trop de références à des choses qu'on ne connaît pas.
Donc, il fallait que ça soit plus... le langage soit plus universel un peu.
Voilà.
D'accord.
Ou alors parle du Brésil et permette de connaître des particularités du Brésil qu'on n'imagine pas. C'est des tâtonnements. Il y a des coups de cœur, comme le premier poème qui s'appelle Lieu, Lugares, que j'ai trouvé tout de suite très beau. Et je me suis dit... celui-ci, ce sera le premier poème. Et voilà. Puis après, on tisse.
Ah, dès le départ.
Ah ouais, celui-ci, très fort, oui. C'est vraiment un beau poème, mais étrange. Voilà. Et puis après, il y a des poèmes auxquels on ne peut pas passer à côté, comme « Je veux aller à Pasargada ». Voilà. Puis « Au milieu du chemin », qui est très étonnant. Voilà, qui est un poème très étonnant. Et puis après, j'ai lu plein de choses sur les poèmes, sur le... Et puis après, j'ai complété le choix, je suis allée chercher d'autres choses. Mais
tu as voulu aussi donner un aperçu pas historique, mais aller des poètes du début du XXe siècle jusqu'à des poètes contemporains d'aujourd'hui.
Oui, ça c'était important pour prouver que c'est une poésie vivante. Mm-hmm. Parce que c'est surtout ça, il me semble, aussi au Brésil, que la poésie est vivante, elle est vraiment aussi dans la rue. Enfin, il y a plein de gens qui connaissent ces poèmes-là, qui sont des poèmes écrits. C'est pas que des poèmes oraux, hein, mais c'est des poèmes écrits, mais les gens connaissent, ont entendu parler. La poésie circule bien au Brésil, on dirait. Je sais pas si c'est vrai.
Je ne sais pas si elle circule aussi bien aujourd'hui qu'avant, mais ce qu'il y a, je pense, c'est que quand elle tombe dans la popularité, si on peut le dire, effectivement, tout le monde connaît. Mais on n'a pas trop l'habitude, pour les études, on apprend des poètes, mais je pense que c'est comme ici aussi, hein, la poésie, elle est moins... Elle est moins connue, elle est moins divulguée. Hein. Il y a pas mal de diffusion aussi des poètes et des poésies. Et voilà, c'est à peu près, je pense, la même chose. Mmh. Et par contre, c'est vrai que quand une poésie, elle devient populaire, elle est populaire. Et même les gens, parfois, ils la connaissent par cœur, mais ils savent même pas qui c'est qui écrit la poésie.
Oui, 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 mais...
Mais le vers devient populaire, en fait. Et pour la musique, je suppose que c'est Véronique qui a choisi.
Et, pas tant ça, en fait.
Ensemble
Odile, en fait, a tellement peaufiné, préparé le spectacle. Quand elle m'a contactée, elle avait déjà la conduite de tout le spectacle avec la ponctuation des musiques qu'elle avait choisies de Villa-Lobos, de Ging. Mmh. J'en ai rajouté quelques-unes, mais pas...
Et
très
non,
peu, en fait.
Parce qu'en fait, oui.
À Ging, c'est plutôt toi, je pense, voilà. Qui a choisi.
Exactement, parce que.
Je suis un peu fan.
Moi, j'imaginais qu'il y aurait Villa Lobos. Je connaissais déjà, mais je n'avais pas écouté tous les disques. Et Véronique m'a fait. Enfin, voilà, c'est son compositeur chéri, quand même. Enfin, voilà. Et puis, chez elle, il y a un nombre incalculable de disques. Et puis, quand elle m'a fait écouter Ginga, je me suis dit, alors ça. On ne peut pas passer à côté, quoi. C'est un peu... Peut-être que je me trompe, je dis des bêtises, mais c'est un peu un Villa Lobos moderne, pour moi. Mais... Oui. Et puis, oui, il est aussi à cheval entre plein de styles, entre quelque chose de populaire et de savant. Et puis, c'est ça qu'on cherchait aussi dans cette lecture. Des choses... entre le populaire et le savant. C'est pas de la poésie hermétique, c'est pas de la poésie où on se prend la tête, c'est de la poésie riche, qui profonde. Voilà. Et Ginga, il est comme ça aussi.
Alors, je pense qu'on va tout de suite commencer par un petit extrait que vous allez nous faire découvrir pour goûter un petit peu de ce spectacle. Et je pense que c'est Lieu, Lugares, que tu vas lire, et bon, on va voir la combinaison.
J'espère que ça va bien se passer en direct.
Há lugares na alma tão escuros que até os cegos podem contar as estrelas cadentes. Il y a dans l'âme des lieux si sombres que même les aveugles peuvent compter les étoiles filantes. Compter les étoiles et faire de nombreux vœux, autant que peut contenir l'âme d'un aveugle. Il y a dans l'âme des plages si sombres que même les voyants croient que c'est le ciel. Chaque paillette de mica renferme une étoile qui est tombée de telle façon que le monde de l'âme semble n'avoir ni queue ni tête. Thank you. Il y a dans l'âme des lieux si sombres que même les aveugles peuvent compter les étoiles filantes. Compter les étoiles et faire de nombreux vœux autant que peut contenir l'âme d'un aveugle. Il y a dans l'âme des plages si sombres que même les voyants croient que c'est le ciel.
Cada grande mica encerra.
Chaque paillette de mica renferme.
Uma estrela que caiu.
Une étoile qui est tombée.
De modo que o mundo.
De telle façon que le monde.
Da alma.
De l'âme.
Parece não ter pé nem cabeça.
Semble n'avoir ni queue ni tête. Chaque paillette de mica renferme une étoile qui est tombée de telle façon que le monde de l'âme semble n'avoir ni queue ni tête.
Merci, on va écouter un peu de musique maintenant.
Thank you.
on a écouté ces signes baronnaises, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On a choisi cette musique pour clôturer le spectacle. Et là, j'ai amené le dernier disque de Ging, en fait, qui nous a... Toutes les deux, on est parties au mois d'avril pour suivre un stage à Rio, encadré, en fait, organisé par Eduardo Lopez. Et parmi les profs, il y avait Ging, donc c'est pour ça que je suis allée. Et à ce moment-là, il vendait son dernier disque. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de son dernier disque qu'il a enregistré juste en duo, oui, avec le clarinettiste qui s'appelle Paulo Sergio Santos.
Oui, Paulo. Oui, voilà. Il est déjà venu ici dans le Gard.
Oui, je me rappelle.
J'étais. Avec Trio Madeira.
Voilà, Trio Madeira.
Exact. Et donc, c'est son dernier disque qui n'est pas du tout sorti en France encore.
Non, pas encore.
Que j'espère va sortir.
J'espère, oui.
Et donc, et juste avant, ce que vous nous avez fait, c'était un texte de Rui Proença. Un petit mot sur Rui Proença.
C'est le plus jeune des artistes de la sélection.
Ouais, voilà. Des poètes que vous avez choisis.
Qu'on avait choisi. On sait peu de choses sur lui. Simplement, on en parlait hors antenne, que c'est quelqu'un qui était ingénieur des mines avant d'être poète.
Tout à fait. Voilà. Par hasard, j'ai découvert ça, j'étais curieuse, parce qu'il employait le mot mica. Voilà. Qui est un mot d'un minéral, qui est la mica, c'est une sorte d'argile, une espèce d'argile. Et j'étais voir dans sa bio et j'ai découvert qu'il était ingénieur de mine. Il a fait des études en tout cas, ouais. Il n'a peut-être jamais exercé, mais il a fait des études d'ingénieur de mine. Ça explique.
Ça explique. Oui, puis il a une poésie très concise. Il y a d'autres textes, un autre texte de Rui Proença dans le.
C'est dans la programmation.
Très, voilà, qui s'appelle Même s'il avait 100 bouches. Un texte un peu étrange. Et, mais c'est, il est peu connu. Parce que moi, j'ai demandé à des amis de me rapporter des livres du Brésil et. Jamais on trouvait ces livres. C'est difficile de trouver ces livres. Et là, je sais qu'il y en a un qui m'attend à Lyon. Il y a une amie qui va me rapporter un. Donc, je vais découvrir livre entier.
C'est pas lui qui a un poème qui parle de peut-être que je me trompe, hein, qui parle de que la poésie ne peut venir que du noir et du silence. Hein, qui parle de.
Je sais pas.
Je sais pas.
Peut-être.
Que je me trompe. Mais j'ai peut-être que je me trompe. Je vais voir après. Alors, donc Ging, ton compositeur fétiche, qu'on va encore écouter et que vous êtes allé cet été suivre un stage et dont il faisait partie en tant que formateur, je pense.
Voilà.
Et toi, Odile, tu as suivi aussi ce stage ?
Oui, je suis
allée...
Comme
chanteuse,
découvreuse.
Découvreuse.
Non, mais parce qu'en fait, c'est la première fois que j'allais au Brésil.
Ah oui, d'accord.
Après, voilà. Et parce que j'avais très envie d'aller au Brésil. Ça fait des années que j'ai envie d'y aller, mais j'avais pas envie d'y aller d'une manière, comment dire. J'avais envie.
Touriste, une somme touriste, quoi.
Oui, parce que j'ai tellement voyagé dans le Brésil avec. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà voyagé au Brésil, mais j'avais envie de quelque chose de fort. Et c'était un très beau voyage, très fort, parce qu'on a rencontré plein de gens, des musiciens. Et puis il y avait une belle ambiance. Et puis rencontrer Ginga, c'est quand même un cadeau. Et je pense qu'on ne rencontre pas Ginga à tous les coins de rue, quoi. Et je pense que Eduardo Lopez a créé ces rencontres. Et c'était vraiment un voyage musical aussi. Et ça, c'était beau.
Ouais.
Et parmi les professeurs aussi, il y avait Lucas Ciavatta qui a fait méthode qui a très connue, Upas, et le vendredi 13 novembre, leur spectacle était à Villeneuve-les-Maglones, à Béranger de Frédol.
Oui, tout à fait. C'était d'accord, super. Il était un des formateurs aussi, pour tout ce qui est corporel,
voilà.
Rythmique.
Elle est vraiment géniale.
C'est un super pédagogue.
Alors, je crois que vous allez nous faire un deuxième extrait du spectacle.
Oui.
Et c'est... Métamorphose.
Métamorphose. Métamorphose de Cassiano Ricardo. Mon grand-père alla chercher de l'or.
Mais l'or se transforma en indien. Mon grand-père alla chercher de l'indien. Mais l'indien se transforma en argent. Mon grand-père alla chercher de l'argent. Mais l'argent se transforma en terre. Mon grand-père alla chercher de la terre. Mais la terre se transforma en frontière. Mon grand-père, assez intrigué, alla modeler la frontière. Et le Brésil prit la forme d'une harpe.
Voilà, le Brésil a la forme d'une harpe. C'est vrai.
C'est joli, hein. J'ai pas remarqué, moi, avant de connaître ce poème.
Les poètes voient des choses que les autres ne voient pas.
Alors, donc, on va continuer avec. Tout à l'heure, vous allez nous faire un autre extrait qui est. Désolée, je suis un peu perdue dans la liste. Là, pour les prochains extraits, c'est.
Un visiteur.
Un visiteur. Ah oui, c'est vrai. Un visiteur.
Le poème d'une femme.
Alors. Donc, dans la liste des musiques, il y a Villa-Lobos aussi. Hein. Et je ne sais pas si vous savez, mais cette année, là, 2009, on a commémoré les 50 ans. C'était le 50e anniversaire de la mort de Villa-Lobos, qui est mort en 59. Donc j'avais fait une longue, longue émission sur lui aussi, dans cette émission à Raponga, en me disant que j'allais faire avoir l'occasion, parce qu'il y avait tellement de choses à dire, d'en faire une deuxième. Avec Florent Robin des Filigranes Imprécis, justement, mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion. Peut-être, même si ce n'est pas en 2009, peut-être qu'on en fera une autre en 2010. C'est vrai que Villa-Lobos était très lié au milieu artistique et à la musique populaire aussi. Est-ce que tu crois que c'est ce peu de frontières qui existe entre l'érudit et le populaire est quelque chose qui symbolise un petit peu la musique brésilienne ou...
Oh, ça se retrouve aussi la musique ailleurs. Argentine, Piazzolla aussi, il avait les mêmes démarches de faire le pont entre le populaire et le classique. Mais c'est vrai que c'est ce qui me séduit le plus dans la démarche de Villa-Lobos, justement, c'est d'essayer de faire tomber ses limites.
Ses barrières.
Ouais, hein. De rendre le populaire sophistiqué et le sophistiqué accessible. Bartok aussi a eu la même démarche.
Ouais.
Aussi. Donc, je ne sais pas si c'est spécial au Brésil, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement en tout cas.
Souvent, c'est vrai que les musiciens brésiliens, soit ceux qui sont autodidactes, ils apprennent d'oreille et puis ils vont apprendre la musique après.
Oui.
Et souvent, ceux qui font un conservatoire, à un moment donné, ils ont envie de se rapprocher du populaire. D'aller chercher la musique populaire parce que. Et j'avais interviewé Joan Assimil qui était venu pour les mandolines des Lunel, hein, le mandoliniste, un vieux mandoliniste, Joël Nascimento.
Ah, Joël Nascimento. Ouais.
Et il m'avait dit que c'est vrai que l'un sans l'autre, c'était difficile, que s'il y avait ce besoin d'aller du classique au populaire, de revenir au classique quand on avait marre du populaire, de faire l'aller-retour entre les deux. Le morceau que vous avez, l'extrait que vous avez fait tout à l'heure, Métamorphose, est un poème de Cassian Ricard, qui est un deuxième poète dans la liste que vous avez choisie pour nous présenter des extraits. Un petit mot sur Cassian Ricard.
Il est né à São Paulo, dans la province de São Paulo, je vois sur une petite fiche, mais je crois que c'est un provocateur un peu, d'après ce que j'ai cru comprendre, quelqu'un qui a de l'humour, il est né en 1895, et mort en 1974.
Ah oui, il fait partie de toute du mouvement moderniste des 1922, la semaine d'art moderne de 1922, avec Mário de Andrade, José de Andrade, et tous ces gens-là. Mais il avait, d'après ce que je sais, il était plus dans le courant nationaliste. Vert et jaune, ils avaient une revue à l'époque. Il y a eu tout un courant de modernistes qui étaient plus nationalistes que d'autres. Et donc, il est passé en tout cas par là. Mais je pense qu'après, il a dû changer un peu. Mais je sais qu'au départ, il était dans ce courant des modernistes. Cassian Ricardo. Et donc, le prochain morceau que vous allez... le prochain extrait que vous allez faire... c'est un visiteur, d'accord, qui est un auteur contemporain, ou non ?
Oui, c'est une femme.
C'est une femme.
Il y a trois femmes, quatre femmes poètes.
Ça, j'ai remarqué, et c'est très bien, ouais, c'est une très bonne idée.
C'est peut-être parce que dans l'anthologie, l'anthologie était, les poèmes ont été choisis par une femme. Peut-être, parce que c'est rare de voir... une anthologie avec autant de femmes.
Ouais.
Et les poèmes ont été traduits aussi par une femme, parce que c'est important aussi.
Et c'est vrai, mais actuellement, je pense qu'il doit avoir beaucoup plus, ce qui est normal quand même, parce que à l'époque, au début du modernisme brésilien, par exemple, elles étaient, on comptait des doigts les femmes poètes. Mmh. Mais là, aujourd'hui, dans le cas de Dionys, elle est d'aujourd'hui, elle. Ouais. Elle est encore active. Hein.
1939, elle est née en 1939.
D'accord. Et donc, l'extrait s'appelle Un visiteur.
Un visiteur. Je le retrouve.
Et ça va être accompagné... non, ça va être la musique après. C'est pas en même temps.
On rajoutera après, oui.
Alors, Un visiteur.
Donc, Odile, les feuillettes sont très jolies cahiers. Elle a un très joli cahier.
Voilà, son joli cahier avec la photo de chaque... Voilà. C'est impressionnant, ça. Ouais,
mais c'est très agréable, en fait, de voir le visage des poètes. Parce qu'en plus...
Ah oui, tu as tout à fait raison. Moi aussi, quand je lis une poésie, j'ai besoin de savoir comment il était. Ouais. C'est lui qui l'a écrit.
Puis il me regarde pendant la lecture. Donc, je mesure ce que je... transmet.
D'accord.
Et je voudrais dire que si les gens viennent voir notre spectacle, ben je leur montrerai mon cahier.
Voilà.
donc, un poème qui s'appelle « Visiteur » de Eunice Arruda. C'est comme ça qu'on dit ? Quem escreve é um visitante. Celui qui écrit est un visiteur. Il arrive dans la nuit et prend la place du sommeil. Il s'assoit à la table du déjeuner et mange ma faim. Il écrit ce que je n'osais même pas rêver et signe de mon nom.
Donc on va écouter une musique maintenant.
Qui s'appelle « Pra quem quiser me visitar ». Les paroles sont de Aldir Blanc et la musique de Ging. Ça veut dire « Pour qui veut me visiter ?»
Et c'est toi qui la joues.
C'est moi qui la joue.
Nascendo a tarde entre sinto inveja das asas do urubu. Aos meus amigos que ficaram, um portador há de levar um par de asas, um paraquedas. Pra quem quiser me visitar, yeah, 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 oh, erarando, 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 yeah, yeah, pra quem quiser me
Alors, donc on a écouté Véronique Liem, Verioka, et c'était Pra quien quisa nos visita, c'est ça?
Oui, Pra quien quisa mi visita. Oui.
Pra quien quisa mi visita.
Ils mettent à la place de c'est comme si c'était un message en provenance des nuages de la part de Tom Jobim, qui ouais. nous a quittés depuis 1994.
Ouais.
Et donc, il dit pour ceux qui. Il donne des nouvelles, il dit ça se passe bien là-bas, je discute avec les anges qui ont la couleur de la bière, j'ai installé un ranch, je joue du piano avec la Vierge. Et pour les amis qui voudraient me rendre visite, n'oubliez pas une paire d'ailes et un parachute pour rentrer.
Pour rentrer chez eux.
Ouais, c'est très, très,
très, c'est très, très joli. Ouais. Et donc c'est Ging qui a fait la musique.
Et Aldir Blanc.
Et Aldir Blanc, ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont fait.
Ils ont fait beaucoup,
beaucoup,
oui,
beaucoup de musique ensemble. Pour toi, justement, Aldir Blanc, c'est un parolier simplement ou un parolier un peu poète aussi?
Moi, ce que j'aime bien, c'est la sonorité des mots qu'il choisit. C'est une écriture plastique presque. Mais après, mais c'est vrai, par contre, il y a plein de mots qui m'échappent, de significations après, en essayant de traduire. Donc finalement, j'ai un peu abandonné l'idée de traduire pas mal d'expressions. Puis il y a plein d'expressions très, très populaires qui sont une espèce de jargon liées à certains quartiers ou quoi. Là, quand on n'habite pas là-bas, on a du mal quand même à suivre. Mais j'adore le son. Ça colle très, très bien avec les partenaires musiciens avec qui ils travaillent. Bon, avant, avec Jean Bosque et tout ça, j'adorais. Donc, tu as tout, vous, lingui, c'est pas un lipo, c'est beau. Donc, j'avais appris ça il y a longtemps. Je me régalais à dire ces sons-là.
Ah non, c'est vrai qu'Aldir Blanc, c'est un
c'est très, très musical.
Très, très bon parolier, parce que c'est justement ce côté. Tu as l'impression que dans les paroles, il y a le rythme déjà qui est à l'intérieur.
C'est très, très coloré. Très
ah ouais, c'est très beau. Donc, prochain extrait, c'est celui qui a donné le titre au spectacle. Donc, je suppose qu'il y a une raison.
Parce que c'est un poème très étrange, fort, et puis aussi, au milieu du chemin, c'était aussi le... L'idée d'aller c'est l'expression aller au milieu du chemin, c'est aller aussi à la rencontre d'une culture, parce que moi, je parle pas couramment brésilien, donc il me manque toute une partie des choses, mais en même temps, c'est intéressant de s'approcher d'une culture et de ne pas tout comprendre et d'imaginer. Et puis, il y a des informations qui viennent après. C'est très particulier, parce que, on comprend après, on devine, on fait des fausses routes, on fait des
gaffes.
Des contresens, voilà. Il faut le mériter. Enfin, c'est assez étrange comme. Parce que ça m'a posé beaucoup de questions de dire faire un spectacle sur la poésie brésilienne en français, est-ce qu'on perd pas la moitié des choses Et en fait, je pense que finalement, quand les poèmes sont bien écrit
traduit
et bien traduit,
ouais.
Il y a vraiment quelque chose qui passe.
Je pense que c'est enfin, ça l'essentiel. Tout, hein, mais c'est le... Voilà, mais... que le poème soit bien traduit, tout en gardant quand même les rimes, si possible, ce côté musical qu'il y a dans la poésie. Quoi.
Et puis, et respecter le texte. Enfin, d'ailleurs, je voudrais tirer mon chapeau aux traductions d'Isabelle Merel, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Parce que elles sont, l'anthologie de la poésie brésilienne est en version bilingue, donc on peut voir comment elle a traduit, et on sent qu'elle est vraiment très proche des mots, et ça c'est beau, je trouve. C'est, parce que je suis tombée sur des anthologies plus anciennes, et, où on sent que le traducteur prend des libertés énormes, et bon, fait son poème avec son propre poème avec le poème des autres. Alors que là, on sent une attention toute particulière, voilà.
Alors, vous allez nous faire cet extrait de Au milieu du chemin, Au milieu du camion. Après, on va parler, bien sûr, de Carlos Drummond de Andrade. Et juste après, on va écouter, après l'extrait qui est très court, on va écouter un prochain morceau de musique qui n'est en fait que ce poème-là.
Oui, et que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un trésor de Martha.
Alors.
Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Il y avait une pierre au milieu du chemin. Il y avait une pierre. Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Jamais je n'oublierai cet événement au cours de la vie de mes rétines si fatiguées. Jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin, il y avait une pierre. Qu'il y avait une pierre au milieu du chemin. Qu'au milieu du chemin, il y avait une pierre.
Acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma no meio do caminho,
Alors, c'était donc Théomoulis Nomeo de Camille, qui est la, en fait le poème que nous a dit, parce que là, c'est, du coup, ce n'était pas un extrait, c'était le poème entier, tellement il est court. Et justement, on était en train de discuter que ce poème, à l'époque, il avait été publié dans une revue moderniste à Saint-Paul. Il avait créé toute une polémique parce que pour les conservateurs, en matière les poètes conservateurs de l'époque en 1928, vous pensez que ça, ce n'était pas du tout une poésie. Il y avait une pierre au milieu du chemin. Au milieu du chemin, il y avait une pierre au milieu du chemin. Je n'oublierai jamais. Il disait, c'est pas possible, c'est pas une poésie. Donc, on était en train de discuter, là, pendant qu'on écoutait la musique aussi, longtemps après, Carlos Drummond, il est allé jusqu'à écrire un livre pour expliquer un petit peu cette polémique qu'il y a eu autour de ce petit poème tout petit qui s'appelait Nomeo de Camille, au milieu du chemin, biographie d'un poème. Il a écrit la biographie de ce poème-là parce que et de là il a je pense qu'il a repris toutes les critiques et les articles des critiques qui étaient parus à l'époque dans les revues, dans les journaux, etc. Et il discute un petit peu tout ça. Je n'ai pas lu le livre, mais apparemment c'est quelque chose comme ça. Donc faire un livre sur la polémique qui a causé un poème qui fait quelques lignes parce qu'il est vraiment petit. Mais la réalité, c'est que ce poème-là, je dirais, c'est peut-être le poème le plus connu de Carlos Drummond de Andrade. C'est vraiment drôle, ça.
Marc, il n'est pas difficile à mémoriser.
Il n'est pas difficile à mémoriser. Mais des fois, tu le dis, parce que Drummond, il a quelque chose de particulier que un autre auteur qu'on va voir peut-être, c'est Manuel Bandeira, a aussi. Ah oui, on va voir tout à l'heure. Ils ont créé des néologismes, mais ils ont créé aussi, ils ont influencé le langage courant. Avec des expressions qu'ils ont utilisées et qui finalement nous on n'a pas su utiliser. Donc tu un père de camion par exemple, c'est une expression qu'on parfois on le dit. Un autre de Carlos de Drummond, c'est Y agora José, et maintenant José, qui est un autre poème hyper connu et populaire de Carlos Drummond d'Andrade. Et c'est devenu une expression, tu vois, quand quelqu'un est perdu comme ça, il ne sait pas quoi faire. Et au lieu de dire « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Tu dis « Y agora, José. » Tu vois, c'est... Donc, c'est... Et Manuel Bandeira, la même chose qu'on va voir maintenant, parce que je pense... Non, c'est peut-être pas tout de suite, hein, mais... Disparu. Pasargue, non, c'est pas tout de suite. Mais on va revenir sur le sujet, peut-être, tout à l'heure avec Manuel Bandeira. Donc, maintenant, c'est... T'as un auteur, l'auteur qu'on va avoir maintenant dans l'extrait, c'est
Afonso Romano de Santana.
Afonso Romano de Santana, qui est aussi un poète contemporain.
Oui, né en 1937. C'est un poète engagé, avant-garde, qui a écrit un livre sur Drummond, d'ailleurs.
Qui a écrit un livre sur Drummond.
Ouais. Un petit peu autorité.
Et l'extrait ?
C'est un extrait qui s'appelle Les Disparus. Enfin, voilà. Où je disais pas les si douces. Qui parle d'un moment particulier de l'histoire du Brésil.
D'accord.
De repente, naqueles dias, começaram a desaparecer pessoas estranhamente.
En ce temps-là, soudainement, des gens commencèrent à disparaître étrangement.
Desaparecia-se muito naqueles dias.
On disparaissait beaucoup en ce temps-là. On allait cueillir la fleur offerte et l'on se dissipait. On s'éclipsait entre une adresse et une autre, ou bien dans le taxi qui vous emportait. Coupable ou non, on pouvait s'évanouir au retour du travail comme du plaisir. Entre un verre de cognac et un signe de la main, le buveur partait en fumée. S'évaporait le père sorti à la rencontre de la fille qui jamais n'apparaissait. Des mères avec provisions et enfants, des femmes enceintes et des groupes d'étudiants disparaissaient. Disparaissaient des amants au milieu du baiser.
et des chirurgiens en pleine chirurgie. Des mécaniciens s'effaçaient en un tour de main sans avoir bouclé leur journée.
Desaparecia-se muito naqueles dias.
On disparaissait beaucoup en ce temps-là. On disparaissait à vue d'œil, et ce n'était pas par myopie. On disparaissait même en garde à vue. Il suffisait que quelqu'un avisât un disparu et le disparu disparaissait. Disparaissait le plus en vue comme le dernier des inconnus. Même les députés et les présidents s'esquivaient. Des religieux s'en allaient également, en lévitant, vérifiaient dans l'au-delà comment les pécheurs leur étaient dérobés sans l'absolution de leurs péchés.
Desaparecia-se muito naqueles dias.
On disparaissait beaucoup en ce temps-là. L'acteur en scène, entre un geste et un autre, et le public du parterre pendant qu'il riait. Non, ce n'était pas facile d'être poète en ce temps-là, parce que les poètes surtout disparaissaient.
Voilà, la musique qu'on va écouter, c'est Villa-Lobos, je pense.
L'étude numéro 9.
Donc, on a écouté les duos Assad, les frères Sergio et Odair Assad, de grands guitaristes, qui jouent, je pense, tout le temps ensemble, et qui ont fait cet album qui est entièrement dédié aux études, aux pièces pour guitare de Villa-Lobos. Et là, c'était donc...
Sergio, peut-être, comme tu disais. Tout seul, enfin, bon, il y en a un des deux.
Il y en a deux qui jouent. Je sais qu'ils n'habitent pas, il y en a un qui habite
Bruxelles.
À Bruxelles et l'autre aux États-Unis, c'est ça?
Je crois, oui, je ne sais pas.
Mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de disques, un duo.
Moi, je les avais vus au Théâtre des Champs-Élysées l'année où ils avaient gagné le concours international de guitare Radio France.
Ah ouais, d'accord. Et donc, c'était studio numéro 9, étude numéro 9 pour guitare de Villa-Lobos. Donc, juste avant l'extrait magnifique que vous avez lu, c'était Alfonso Romain de Santana, Les disparus, les desaparecidos. Un petit mot sur ce poème qui est très fort. Hein.
Mais il fait référence à une période qu'on connaît peu du Brésil, enfin que les gens sont assez étonnés de savoir qu'il y a eu la dictature pendant 20 ans, de 1964 à 1984. Parce que voilà, c'est important parce que je pense que ça a marqué le pays très fort. Quoi. Mais c'est étrange, hein. C'est vrai qu'on a cherché des infos avec Véro là-dessus et c'est pas
sur la période de la dictature.
Ouais.
Et vous n'avez pas trouvé?
Si, bien sûr, mais comment dire, c'est pas une chose dont on parle vraiment avec le Brésil. C'est drôle. C'est pas ce
oui,
qui.
Oui, mais même peut-être à l'époque on en parlait pas beaucoup, je pense, malheureusement. En tout cas, pas assez.
Les gens, ils ont envie de passer à autre chose et de oui, parler de choses positives, quoi. Enfin, bon.
Oui, il y a le bon et le mauvais côté aussi, hein, parce que c'est vrai que, tout comme le Chili, il n'y a pas eu, que je sache, des vrais procès. Hein, certaines familles des disparus ont tenté des procès ou, je pense, ont essayé d'aller un peu plus loin à ce niveau-là. Mais en tout cas, que je sache, aucun militaire n'a été en prison et moins encore n'a eu un procès.
Oui. Hein,
donc, c'était l'amnistie totale, et sans avoir passé quand même, comme a fait au moins l'Afrique du Sud, que je trouve... c'était un processus magnifique de faire un procès et sans qu'il y ait en demandant le pardon, en acceptant que le pardon devant toutes les familles des victimes et en disant que ça suffisait pour amnistier les coupables. Le coupable en Afrique du Sud, en tout cas. Et donc, au moins, ça, c'est déjà bien. Mais au Brésil, il n'y a pas eu ça. Donc, c'était Afonso Romano de Santana, qui est toujours très actif aujourd'hui. Je pense qu'il est journaliste aussi. Je sais pas. Il me semble qu'il écrit aussi pour
les
journaux. Et donc, c'est vrai qu'on va arriver à... Manuel Bandeira, je pense que cette fois-ci c'est bon. Manuel Bandeira, qui est, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure pour Carlos Drummond, c'est un poète connu, populaire, qui a beaucoup influencé le langage courant aussi, autant que Carlos Drummond. Je pense, moi, quand j'étais encore au lycée, j'ai préféré Bandeira. J'ai toujours aimé plus Bandeira. Il y avait quelque chose en lui, côté un peu sarcastique, qui me plaisait, parfois même très dur, hein, et qui avait moins chez Drummond. Même si après, oui, plus tard, Drummond a passé par plusieurs phases, hein, quand même, comme Bandeira. Moi, je pense que ces deux-là, ils ont quelque chose d'ensemble. Qu'on peut les mettre ensemble, c'est le fait qu'ils ont traversé, ils ont vécu longtemps, tous les deux. Ils ont traversé le 20e siècle et qu'ils ont changé un peu de... Déjà, ils n'étaient pas vraiment, ils étaient modernistes, mais ils sortaient un peu du lot. Et je pense qu'ils ont changé, ils ont eu des phases différentes, et tous les deux d'ailleurs, hein. Donc, le poème, c'est...
Je vais aller à Pasargada. Là-bas, je suis l'ami du roi. Là-bas, j'aurai la femme que je veux dans le lit que je choisirai. Je vais aller à Pasargada. Je vais aller à Pasargada. Ici, je ne suis pas heureux. Là-bas, l'existence est une aventure si inconséquente que Jeanne, la folle d'Espagne, reine et fausse démente, peut par alliance être parente de la belle-fille que je n'ai jamais eue. Et alors ? Je ferai de la gymnastique, je roulerai à bicyclette, je monterai sur un âne sauvage, je grimperai au mât de cocagne et j'irai me baigner dans la mer. Et quand je me sentirai fatiguée, je me coucherai au bord du fleuve et je ferai appeler la main d'Agua pour me raconter les histoires que Rosa inventait pour moi lorsque j'étais enfant. Je vais aller à Pasargada. À Pasargada, il y a tout. C'est une autre civilisation. Ils connaissent un procédé sûr pour empêcher la conception. Ils ont le téléphone automatique, des alcaloïdes à volonté et de jolies prostituées à qui parler d'amour. Et lorsque je serai triste, mais triste à en mourir, lorsque j'aurai envie une nuit de me suicider, là-bas, je suis l'amie du roi, j'aurai la femme que je veux dans le lit que je choisirai. Je vais aller à Pasargada.
Et on écoute le morceau qui va avec.
Vou-me embora pra Pasargada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Vou embora pra Pasargada. Vou-me embora pra Pasargada. Que eu não sou feliz. A existência é uma aventura de tal modo inconsequente. Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo. Subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água pra me contar as histórias. Seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra Pasargada.
On écoutait donc Olivia Raim, Vomi Bora va Passagada, donc Je m'en vais à Passagada, qui est ce joli poème que vient de nous dire Odile. Et alors, comment tu trouves ce poème, ou les deux plutôt, je demande aux deux.
C'est drôle d'entendre.
Il est très bizarre. Déjà, la première chose, je pense que, en tout cas, quand on l'avait déjà passé ce poème ici, la première chose qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que c'était Passagada.
Eh oui, est-ce que ça existe seulement?
Je pense. J'ai pas. À l'époque, j'avais fait une première émission avec un autre animateur de Divergence qui avait une émission qui est sur la poésie, qui n'est plus là. Et donc, j'avais fait un peu de recherche. Et d'après ce que je trouvais, c'est quelque chose, si ça existait dans la mythologie grecque.
Oui, c'est une ville de la Perse antique, quelque chose comme ça.
Ou, c'est pas dans la mythologie grecque. Bon, alors,
voilà,
je sais pas. Mais en tout cas, c'est un lieu magique. Un lieu, et on voit d'ailleurs pas les textes. Hein, c'est les paradis.
Oui. Ouais.
C'est le vrai paradis.
Oui, voilà, c'est l'endroit. C'est Yucali.
C'est comme. Même si y a un côté un peu pas féministe du tout dans la musique,
bien,
ça par contre, je vais avoir la femme que je veux dans le lit que je veux.
Non, hein. C'est pas évident en tant que femme de le dire.
Alors là, il ne manque au moment que je veux.
Voilà, quand je veux, où je veux.
Et des prostituées pour lui parler d'amour et pour ne parler
voilà, de ma petite.
Mais c'est beau, c'est.
On claque des doigts, il y en a qui arrivent. Mais ce côté satirique, en même temps sarcastique, parce que Manel, il avait ce...
Et on l'a mis en regard avec des poèmes de Cecilia Meireles, où elle dit « Malheur à celui qui invente des songes pour les rêver ». Je trouve ça, j'aime bien, parce que ça contrebalance aussi...
Et c'est vrai que j'étais pas... Cécilia Meireles était quelqu'un qui a défendu la laïcité, qui était impliquée dans l'éducation, qui était moins sarcastique que Manuel Bandeira. C'était vraiment sa caractéristique. Et c'est bien de les mettre ensemble.
Oui, ils se répondent parce qu'il y a plusieurs textes où ils parlent de Passagada.
Ouais.
Du coup, C'est bien aussi de voir les quêtes de chacun, les quêtes
oui,
des
parce
hommes,
qu'il a une autre poésie où il parle de Passagada, Bandeira.
Oui, qui s'appelle Nostalgie du vieux Rio.
Exactement.
Ah, oui. Il recommence avec cette histoire. C'est deux poèmes, parce que ça ne se voit pas peut-être dans le spectacle, mais c'est deux poèmes différents. Et donc, c'est vraiment une idée fixe.
Oui, c'est ça. Mais là aussi, il a créé une expression parce j'ai déjà entendu dans plusieurs situations, les gens disent, quand ils en ont marre qu'ils veulent s'en aller,
vous
m'y voyez pas ça. c'est comme Vinicius, tu connais la Tonga da Milonga do Cabulete.
Oui. Hein,
quand tu as au lieu d'envoyer quelqu'un.
La Peta Ushnok,
va pas ton gadamiranga de Cabulete.
Ah oui,
vas-y, va. C'est des expressions qui. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que ton gadamiranga de Cabulete, je ne sais pas du tout où il est allé trouver sa vie. Je ne sais pas.
C'est peut-être l'alcool.
Dans le whisky, je pense, oui. Au fond du verre.
Non, mais ça devenait un. Ça avait un sens après, à partir du moment où l'a employé dans le langage courant, l'expression elle avait un sens, même si le mot il était pris de rien du tout.
Mais moi j'ai entendu dire que c'était une insulte en nago.
C'est
un langage nago qu'il avait. C'était une manière de
mais à mon avis,
de la dictature.
À mon avis, il a un peu adapté Vinicius.
Mais que sa femme de l'époque lui avait donné. Et c'était une manière de critiquer la dictature d'une manière légère et détournée. Mais voilà ce que j'avais lu à propos de ça.
Ouais, c'est possible. Hein.
Parce que Odile, elle a préparé aussi un spectacle sur Vinicius.
Et vous savez avec qui?
Non.
Avec Verioka.
Et alors, c'est pour quand?
Et ben, on a fait la première le 30 septembre dans une bibliothèque à Lyon.
Ouais.
Et on ne sait pas encore quand on fera la seconde. Si, au mois de début février, c'est ça?
Oui, voilà. A priori à Lyon aussi.
Et d'accord.
C'est la suite sur le chemin, justement.
D'accord.
Parce que, au milieu du chemin, c'est aussi ça.
Et ça s'appelle comment, alors, ce spectacle sur Vinicius?
Vinicius.
Vinicius, d'accord.
Parce qu'il est poète de la chanson brésilienne. Parce qu'il est très peu connu en France aussi, Vinicius. Enfin,
il est connu. Non, mais c'est vrai qu'il est plus connu dans sa phase Gainsbourg, on va dire.
Oui, et puis tout le monde
connaît
ses chansons.
C'est comme Gainsbourg, un peu Gainsbourg. Vinicius, sa phase poète, quand il est passé dans sa phase musicien, compositeur, chanteur, plutôt... et surtout des concerts, parce qu'il n'arrêtait pas. Ouais. Il n'arrêtait pas de faire des concerts avec son époque avec Toki. C'était les uns après les autres, des tournées.
Ici, on l'a connu qu'à partir de la période avec
Toki. Et voilà, donc du coup, toute la vie intérieure de Vinicius, je pense qu'on l'a oublié. On a tout de suite lié à son image, l'image du mec sur scène avec son verre de whisky, le ventre énorme, etc.
C'était ça, mais pas que ça.
Et très chaleureux, qu'il a toujours été, en appelant tout au diminutif, et tout le monde au diminutif, y compris lui-même. Mais il a eu... toute sa phase de vrai poète, si on peut le dire.
Il a un sacré parcours.
De vrai diplomate, si on peut le dire avant, etc.
Oui, et puis il a fait vraiment le lien entre la poésie savante et la musique populaire.
Ah oui, il a été vraiment le pont. À partir du moment, à la fin des années 50, il a rencontré Jobim, qu'ils ont fait Orphée ou La Pièce. Et puis Carlos Lee, les plein de gens qu'il a rencontrés après... Mais je pense qu'il était le pont entre ce milieu plus intellectuel et comme d'autres ont été. Villa-Lobos aussi a été un pont entre le milieu intellectuel et le milieu populaire. Villa-Lobos adorait aller jouer du chorinho, la guitare, je pense, non?
Oui.
Dans un bar avec les chorons, ce qui était dans le quartier populaire, dans les bars des quartiers populaires de Rio, alors qu'il représentait la. Les milieux intellectuels, bourgeois. Et voilà, ils ont été deux grands ponts, je pense, dans la musique brésilienne. Alors, donc on arrive bientôt à la fin de l'émission. Mais avant, on va écouter un dernier extrait qui est...
Je dis oui, de Ferreira Goulart.
D'accord.
Poderia dizer que a vida é bela e muito, e que a revolução caminha com pés de flor nos campos do meu país, com pés de borracha nas grandes cidades brasileiras, e que meu coração é sol de esperança entre pulmões e nuvens.
Je pourrais dire que la vie est très très belle, et que la révolution marche avec des pieds de fleurs dans les champs de mon pays, avec des pieds de gomme dans les grandes villes brésiliennes, et que mon cœur est un soleil d'espoir entre poumons et nuages. Je pourrais dire que mon peuple est en fête dans la voix de Clara Nunes, dans les virevoltes des mulatresses, dans le carnaval et la rue.
Mas non.
Mais non.
O poeta mente.
Le poète mentirait.
A vida nos amassamos em sangue e samba.
La vie, nous la pétrissons dans le sang et le samba, tandis que tourne la nuit sur la patrie inégale. Nous rendons notre vie joyeuse et triste en chantant parmi la faim et disant oui.
Et disant oui.
Parmi la violence et la solitude en disant oui.
Dizendo sim pelo espanto da beleza, pela flama de Teresa.
Pour la beauté qui surprend, pour la passion de Teresa.
Pelo meu filho perdido nesse vasto continente.
Pour mon fils égaré sur cet immense continent.
Pour Vianinho ferido.
Pour l'artiste blessé.
Pelo nosso irmão caído.
Pour notre frère tombé.
Voilà, donc c'était un morceau, un texte, poème de Ferreira Goulart, qui est aussi un autre auteur qui a toujours été très engagé et a tout comme disparu tout à l'heure. Ce morceau-là évoque aussi cette période sombre dans l'histoire brésilienne.
Il a été exilé longtemps en Argentine, non ?
Il est exilé en Argentine d'abord. Je pense que c'est là où il a écrit d'ailleurs Poème sale. Je pense qu'il a été à Cuba après.
D'accord.
Si je ne me trompe pas. Et c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui est très actif jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours quelque chose à dire sur plein de gens. C'est marrant. Il est, et en plus, il a l'air fragile, parce qu'il est tout mince, tout maigre.
Il sourit tout le temps.
Mais il sourit tout le temps. Ouais, c'est...
Il a souffert.
Le film sur Vinicius de Moraes, il intervient justement avec quelqu'un qui est toujours entre deux phrases, qui rit tout le temps. C'est très, très optimiste, en fait.
Exactement.
Très, beaucoup d'humour.
Oui, alors qu'il y en a qui pleurent. Il y en a dans le documentaire sur Vinicius de Moraes, il y en a qui pleurent. Dans le documentaire, je crois que c'est Dulob, qu'à un moment donné,
il est ému, oui.
Il a des larmes, presque. Et tandis que lui, il rigole tout le temps. Ouais. Comme si l'esprit de Vinicius était descendu sur lui, quoi. Il est vraiment... Voilà, donc c'était Ferreira Goula. J'ai dit oui.
J'ai dit oui.
Qui parle de cette époque de la dictature, puisqu'il parle des amis aussi disparus ou morts aussi.
Puis de l'image du Brésil, un peu magnifique, le carnaval. Hein. Et puis en fait, l'autre côté aussi.
Ouais, voilà, l'autre face. Hein. Voilà. Donc, on va bientôt terminer. Je voulais rajouter un petit mot. Si, rappeler quand même un nouveau... le spectacle.
Qu'on joue le Noumaïo do Camille le vendredi 27 à 20h45 et le samedi 28 novembre à 19h au théâtre Pierre Tabar, rue Lacanale.
Voilà.
Montpellier.
Au Beaux-Arts.
Venez parce que c'est la poésie, ça ne fait pas peur, mais ça nourrit. Voilà.
Et donc, merci à vous deux.
Merci à toi.
Un grand merci.
Merci à toi.
À Ellie qui a assuré la régie ce soir.
Merci, Ellie.
Et justement, peut-être juste avant de écouter le dernier morceau, un tout petit mot, puisque le dernier morceau, c'est Chico Buarque. À pesar de você, qui est un morceau, je pense, très connu, mais y compris en France, très, très connu. Et donc un petit mot sur Chico Buarque, lui aussi entre poète et parolier un petit peu, parce qu'il y a quelqu'un qui a interviewé Chico Buarque quand il est venu pour la Comédie du Livre en 2005,
pour Embrouille.
Une collègue d'ici de la radio.
C'est peut-être pas Budapest.
C'était Budapest.
C'est pas Embrouille.
Ouais. Et il a dit non, je ne suis pas du tout un poète, je ne me considère pas un poète. Il veut être en fait écrivain, mais pas, il ne revendique pas du tout ce titre de poète. Il a dit je suis un simple parolier. Alors, parce qu'il a des textes qui sont tellement beaux.
Tu sais qu'on a vu à Rio justement.
Sur les poètes.
Où il parle de ça et dit que lui, il ne se considère pas propre poète parce qu'il dit qu'il peut seulement écrire quand il y a des musiques.
Voilà.
Voilà, c'est
exactement.
Beau.
C'est ce qu'il a dit à Montpellier, la même chose.
Ah ouais.
Il a dit « Je n'écris qu'à partir de la musique. » Donc, je ne suis pas un poète. Donc, on écoute Chico Buarque, « Apesar de você, au revoir. »
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando
chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.